que j'aimerais dire ici, maintenant, c'est qu'il faut que le harcèlement cesse. Ma fille a été harcelée pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête. Mais elles l'ont poursuivie jusqu'à la maison, jusqu'aux réseaux sociaux, pour lui dire qu'elle était moche, qu'elle valait rien. Alors je vous en supplie, ceux qui ont des enfants, parlez-leur.
Plusieurs fois, je suis allée voir la CPE, plusieurs fois, j'ai appelé la vie scolaire, pratiquement tous les jours. Mais ils n'ont jamais rien pris au sérieux, en fait. Rien.
C'était un dimanche d'octobre dernier à Mulhouse. La douleur de la mère de Dina a bouleversé les 1400 personnes qui rendaient hommage à l'adolescente lors d'une marche blanche. Dina, 14 ans, a été retrouvée pendue quelques jours plus tôt au domicile familial. Selon ses proches, des collégiennes qu'elle côtoyait à l'école l'auraient harcelée. Insulte raciste et homophobe, Dina avait révélé son homosexualité. Depuis, le parquet de Mulhouse a ouvert une enquête. Chaque année, entre 800 000 et 1 million d'enfants sont victimes de harcèlement. Ces chiffres ne sont pas fantaisistes, ils proviennent d'une mission d'information du Sénat.
Soit ils me frappaient, soit ils me poussaient, soit ils m'insultaient en fait. À cette époque-là, je me sentais coupable en fait d'être harcelée. Vu que tout le monde me faisait la réflexion que c'était de ma faute, ce que je ressentais, j'ai failli me suicider 3 fois.
Un collégien sur 4 a été victime de cyberharcèlement. Car si la violence scolaire a toujours existé, le fléau est démultiplié avec les réseaux sociaux, aussi indispensables pour nos enfants qu'ils peuvent être parfois destructeurs.
Est-ce que vous avez tous un téléphone portable ?
Oui.
Est-ce que vos parents contrôlent systématiquement ce que vous faites, ce que vous dites ?
Oui.
Levez la main. Vous voyez déjà, par rapport, il y en a bien moins.
Oui, il a déjà regardé mes messages.
Une association a dénombré 20 suicides l'an passé liés à des faits de harcèlement scolaire. La communauté éducative aujourd'hui semble plus sensibilisée, mais réclame d'être mieux formée pour endiguer ce malheur dans les écoles et ainsi faire échec au harcèlement scolaire. Voici le reportage de Yann Gaïk.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Nous arrivons chez Marie et son fils Maxence, qui a 14 ans. Il est scolarisé dans un collège parisien. Maxence est autiste et ça s'est mal passé pour lui dans son collège puisqu'il a été l'objet de moqueries récurrentes. Il a même été agressé par d'autres élèves à cause de son handicap.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous rentrez de l'école.
Exactement.
Une casserole.
Il y a que 3 étages.
Ça va. Tu vas chercher des
trucs.
On a un
petit
moment,
elle a
quel
âge ?
Ah, je sais pas, je suis pas prêt.
Bonsoir.
Bonsoir,
c'est
où ?
Maxence ?
Oui.
Il est où ?
Ah, bah, il est là.
Dans la chambre.
Bonjour, Maxence.
Ça va ?
Ça va.
Ouais,
ça va.
Avec papa, Justin.
Mais moi, je vais voir de vous.
Oui, oui, mais avec papa.
À partir de quand ça a commencé à devenir vraiment compliqué pour Maxence ? Dès l'école primaire ou c'est vraiment à l'arrivée en 6e au collège ?
C'est clairement à partir du collège, parce que c'est vrai qu'en primaire, les enfants sont encore dans une sorte d'innocence, enfin, d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et à partir du collège, et même dès les premiers jours, Maxence a souffert de ce changement de regard. Et donc, il a été catalogué, moqué assez rapidement dès les premiers jours après l'entrée en 6e.
Au début, j'étais pas tout seul parce que les gens, je les connaissais pas. Et après, il y avait les gens qui commençaient à se moquer de nous. On m'a volé de l'argent, on m'a pris des affaires, téléphone portable.
Par rapport au fait que t'es autiste aussi, on te disait que t'étais bizarre. Enfin, Maxence ne voit pas le mal. Donc c'est vrai que c'est une proie facile. C'est une proie facile.
Vous, comment vous en êtes aperçu que Maxence était rejeté d'une certaine manière ?
Alors, je le connais plutôt pas mal, même s'il s'exprime peu. Mais c'est vrai qu'on voyait que le soir, en arrivant à la maison, il portait sur ses épaules le fardeau d'une journée qui avait été compliquée. Et puis oui, cet argent qui disparaissait, ses affaires qui disparaissaient, parfois des traces de coups qui ne pouvaient pas correspondre à des chutes. C'est tout un ensemble de petits indices en fait qui font que j'ai perçu que ça se passait mal à l'école, sachant que le harcèlement scolaire, je l'ai subi aussi. Donc j'étais très en alerte sur cette question-là, d'autant plus du fait qu'il est autiste.
Est-ce que ça a empiré après, en cinquième, en quatrième? Est-ce que c'est devenu de plus en plus compliqué pour toi?
Oui, en cinquième, c'était plus compliqué. Mais il y avait une bagarre au collège.
Ah, c'était plus qu'une bagarre. Tu as subi une agression suite à laquelle on a porté plainte. Il y a eu plusieurs élèves qui l'ont attiré dans les sous-sols du collège, qui l'ont frappé pendant que d'autres le filmaient et qu'un groupe, en fait, regardait. Donc c'était une violence assez inouïe, oui.
Ils étaient deux, et il y avait deux autres qui filmaient avec leur téléphone portable.
Tu t'es pris des coups de pied quand même dans le ventre. Il a dû se protéger pour éviter de prendre des coups à la tête. Et après, t'as eu du mal à retourner au collège. Les jours qui ont suivi, ça a été compliqué.
Oui, le lendemain.
Il avait la boule au ventre.
Le lendemain, je voulais pas y aller au collège.
Oui. Finalement, la reconnaissance de cette agression par l'encadrement était assez faible. Les sanctions qui ont été prises derrière l'étaient également, puisque les élèves concernés ont... en gros, le calendrier, c'est qu'ils ont agressé Maxence. Ils ont pu partir à un voyage scolaire en Italie, qui était programmé. Ils ont eu les vacances de février et suite à ça, ils ont eu 3 à 5 jours pour ceux qui ont été le plus punis d'exclusion. Donc, à aucun moment, ils ont vraiment été mis face à leurs responsabilités. Il n'y a pas eu de vraie sanction au final. Pour Maxence, c'était la double voire la triple peine parce qu'on m'avait même parlé de le changer d'établissement, ce qui était juste hors de question parce que ce n'était pas lui qui était en tort. Moi, je voulais que Maxence... Je voulais qu'il ait bien en tête qu'il n'avait absolument rien à se reprocher, que ceux qui avaient fait quelque chose de mal, c'était ceux qui l'avaient agressé, et que si des élèves étaient appelés à changer d'établissement, c'était certainement pas lui.
Il y a 2 jours, j'ai été violemment agressée par des élèves.
Et qu'est-ce que...
J'en connaissais certains, mais pas tous. Pendant que plusieurs personnes me frappaient, d'autres personnes me filmaient. Il ne faut jamais penser que la victime est responsable de ce qui lui arrive.
Donc là, Maxence, c'est ta chambre.
C'est la chambre, ouais.
Alors, j'ai vu que tu avais créé ta propre chaîne sur YouTube. C'est ici que tu fais tes vidéos ?
Oui, j'ai créé une chaîne YouTube il y a 3 ans.
Ça, c'est l'ordinateur de la famille, Maxence, ou c'est le tien ?
C'est mon ordinateur à moi.
Tu voulais dire quoi, le petit frère ?
Je voulais dire que en fait, peut-être s'il a fait des vidéos avec son harcèlement scolaire, peut-être qu'en fait il les a mis sur internet pour que les gens un peu ne lui fassent pas de mal et ne.
Et toi, ça te rend un peu triste de savoir que ton frère a été harcelé au collège ?
Bah oui, j'ai pas envie, c'est mon frère.
Le 7 novembre était la journée nationale contre le harcèlement. De quoi s'agit-il ? C'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Le harcèlement a principalement lieu à l'école, au collège et au lycée. Le harcèlement est souvent lié au rejet de la différence, comme la taille, la religion, la couleur de peau, le bégaiement, mais aussi le handicap. Le problème est qu'ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Le problème, c'est qu'ils sont naïfs et qu'ils ne comprennent pas le mal. Et même s'ils comprennent ce qui leur arrive, ils auront plus de mal qu'un élève neurotypique à en parler. C'est pourquoi les parents doivent faire attention aux indices, comme un changement de comportement.
Chagrin scolaire, 80 degrés, bonjour.
Oui, bonjour, c'est France Inter.
Oui, je vous ouvre.
suis un peu la tour de contrôle de tous nos centres. Céline et Aline travaillent ici. Elles reçoivent tous les appels, à la fois des patients, à la fois des étudiants, à la fois des thérapeutes. Et donc, c'est vraiment le premier contact.
Le premier contact téléphonique pour les parents et leurs enfants victimes de harcèlement. Ils peuvent prendre rendez-vous ici à Mâcon, dans un centre de thérapie spécialisé qui existe depuis 2008.
On va passer par la salle d'attente.
Là, vous avez installé des sièges de salle de cinéma.
Oui, où les patients s'endorment assez régulièrement, en fait. Donc, on se dit que ça doit être assez câlin comme ambiance.
Et à côté, c'est la salle de consultation, votre salle de consultation.
Donc, je m'appelle Emmanuelle Piquet, je suis thérapeute et j'ai fondé donc, les centres à 180 degrés chagrin scolaire il y a une grosse dizaine d'années maintenant.
Combien de thérapeutes travaillent ici ?
Alors dans ce centre, il y a une dizaine de thérapeutes. Et puis en tout, en France, on est une trentaine de thérapeutes.
C'est un centre de consultation, de formation aussi, qui est spécialisé notamment dans le traitement des souffrances scolaires, c'est ça ?
C'est ça, des souffrances en milieu scolaire en tout cas. Donc les souffrances relationnelles entre pairs, PAIRS, les souffrances plus liées aux apprentissages des enfants, des adolescents et de leurs parents aussi, d'une certaine manière. Et puis également les souffrances des enseignants qui sont souvent assez peu prises en charge, en fait, d'une façon générale. Donc voilà, c'est ces trois territoires sur lesquels on travaille de façon spécifique. Mais par ailleurs, on a des consultations très généralistes.
Sachant que vous avez aujourd'hui plusieurs centres de ce type dans toute la France.
Alors toute la France, non, mais en tout cas un certain nombre de villes, Paris, Lyon, Lille. Et puis on est aussi implanté en Belgique et en Suisse, à la fois à Liège et à Genève.
Vous recevez combien de jeunes à peu près chaque année ?
Alors, de jeunes, on en reçoit à peu près un millier, mais de jeunes qui viennent pour une consultation parce qu'ils se font harceler, c'est environ 500 par an. Oui, bonjour, Emmanuel Piquet, enchantée. Donc vous vous souvenez que c'est un dispositif un peu particulier, puisqu'il
oui,
y a France
alors,
Inter qui... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous écouter vous, puis ensuite je l'écouterai elle, si ça lui va, Michette. Ça va ?
Ça va.
Bon, je vais te mettre dans la salle d'attente. Là, t'as un bouquin, t'as un téléphone surtout, c'est
oui.
ça, c'est ça qu'on peut dire surtout. Ça va ? On te revient te chercher après ?
Ok.
Ok, super. Alors, je vous précède. Pardon. On voit toujours les parents en première séance, dans ce type de situation et dans d'autres d'ailleurs, parce que c'est hyper important pour nous aussi de bien comprendre vous, comment vous voyez le problème.
Mmh.
On a aussi besoin de bien comprendre quelles sont vos émotions à vous, parce que c'est vraiment le type de situation qui génère des espèces de tsunamis émotionnels chez les parents, absolument logiques et importants. Et c'est important que vous puissiez aussi les dire, en fait.
D'accord.
Ça va ?
Ça va.
Alors dites-moi un peu ce qui se passe, de votre point de vue de maman.
On s'est rendu compte l'année dernière que notre fille était mal à l'école, parce qu'elle nous en a parlé, mal au collège, puisqu'elle est en cinquième. Donc elle a eu, auparavant, elle a eu une très bonne amie avec laquelle elle s'est disputée. La relation a cessé un petit peu du jour au lendemain, ce qui a créé un gros malaise chez notre fille, dont on n'a pas forcément pris la mesure. L'ex amie en question est devenue une ennemie. Une ennemie qui s'est un petit peu liguée contre elle. On était intervenu une fois auprès des parents en disant bah, « écoutez, non, ça va pas ». De ce côté-là, ça s'est un petit peu calmé, mais
d'accord.
Par contre, elle est devenue la victime, entre guillemets, d'autres enfants.
C'est
à ce moment-là qu'il y a un moment où elle n'en pouvait plus. Et un soir, on est rentré le soir et elle m'a dit « écoute, maman, il faut que je te dise, je passais la journée à pleurer et à manger pour essayer de me consoler ». Donc on s'est à ce moment-là, il y a eu un gros déclic. Alors, j'avais senti plusieurs fois que ça allait pas très bien. J'avais essayé de prendre contact avec une psy qui... et j'avais jamais pu avoir de rendez-vous. Et cette fois, les planètes étaient toutes alignées, apparemment, puisque j'ai pu obtenir un rendez-vous la semaine suivante avec, pour le coup, une pédopsychiatre qui lui a rapidement donné un traitement médicamenteux.
Un antidépresseur ?
Un antidépresseur, oui. Donc, on a discuté ce jour-là, donc j'avais ma fille à côté de moi, à qui la psychiatre posait des questions, dont une à un moment qui m'a marquée, puisqu'elle lui a dit « Est-ce que tu as déjà eu envie de mourir ?» Ma fille a répondu « Oui ». Donc voilà, ce genre de choses. Une psychiatre qu'elle a continué à voir, et qui un jour a souhaité la sortir de l'école, en disant « Là, elle ne peut plus y aller ». Elle a eu une période comme ça d'un mois, à peu près un mois et demi, où elle n'est pas allée en cours. Entre-temps, on avait quand même travaillé aussi main dans la main avec le collège. On a pu récupérer les cours, lui permettre de ne pas décrocher scolairement. Et puis, on a demandé à ce qu'elle change de classe, ou en tout cas ne soit plus avec certaines personnes.
En fait, je vais juste vous demander juste de changer une petite chose, si vous voulez bien, si vous en êtes d'accord, évidemment. Mm-hmm. Ce qui serait intéressant, peut-être, c'est que vous attendiez qu'elle vous en parle, de ce sujet-là, je parle, hein, de ce sujet-là, plutôt que de lui poser des questions, vous voyez.
D'accord.
Parce qu'au fond, le risque, vous voyez aussi, c'est que si une journée se passe bien, pour une raison ou pour une autre, le fait même d'y aller en mode un peu inquiet, vous voyez ce que je veux dire, ça réactive quelque chose qui est de l'ordre un peu du ressassement, en fait.
Complètement. Non, mais avec grand plaisir, parce que surtout, je suis très démunie.
Mais tous les parents sont super démunis.
C'est très dur en tant que parent d'apprécier la gravité de la situation.
Tout à fait.
Ce qui est très important pour moi, c'est de ne pas laisser aller et qu'un jour on se rende compte que c'était vraiment très grave. Mmh. Et j'ai pas envie que notre fille, à un moment, n'en puisse plus au point de faire un geste désespéré. Mmh. Mmh. Donc si on peut lui donner des armes, si vous pouvez lui donner des armes pour qu'elle quitte cette étiquette entre guillemets de victime. Parce que moi, j'y arrive pas.
Ok. Pardon. À tout à l'heure. Je te kidnappe, ma biche. Tu vas rester qu'avec moi. T'inquiète. Alors. Donc, dis-moi un peu, quand est-ce que ça a commencé, toi, que c'était ici?
C'était il n'y a pas très longtemps,
en fait. Oui.
Après la rentrée, quand même.
Et qu'est-ce qui s'est passé exactement, en fait, à la rentrée?
Y a plein de petits événements qui, voilà. Enfin, par exemple, elle a créé une histoire en parlant d'une Pauline. Enfin, c'est moi, quoi. Elle l'insulte de transgenre, de pute, de salope, enfin, plein de trucs comme ça. Et puis, elle me bouscule dans les couloirs, elle fait tout pour retourner des filles que j'aime bien contre moi, et puis voilà, quoi.
Elle est dans ta classe?
Oui.
Donc, alors, j'ai pas très bien compris. Elle a créé un événement?
Une personne pour parler de moi, en gros.
Elle a créé une personne où ça? Sur quelle...
Avec ses copines, en fait. Elles se sont dit, tiens, on va créer un prénom pour parler d'elle.
D'accord, j'ai compris. Ah, mais alors, c'est dingue. Donc toi, là où c'est le plus dur pour toi, c'est quand tu passes, par exemple, aux interclasses devant elle, devant ce groupe. Elles sont combien?
Deux. Mais du coup, je suis allée voir le CPE et tout, et en fait, j'ai voulu être gentille avec elle, aller la voir moi, pour pas que le CPE aille la voir. Au final, elle a pété un câble, et voilà.
Les deux, là? Elles le font depuis quand, ça?
Pas longtemps. Mais j'ai aussi subi l'année dernière et l'année encore d'avant, donc ça devient... Voilà, quoi. Dans l'histoire, c'est plutôt les années d'avant qui m'ont fait beaucoup de mal.
Et les autres qui t'ont embêté l'an dernier, c'était tes copines aussi?
Ouais, et puis après, elles se sont retournées contre moi. C'était une fille qui faisait pareil, qui m'insultait, qui retournait ma copine contre moi, qui me poussait dans les couloirs, bref, des trucs comme ça. Mais le pire, c'est mon année de sixième où j'étais meilleure pote avec deux filles. En fait, elles m'ont lâchée, toutes les deux. Voilà, elles sont mises à m'embêter, quoi.
Qu'est-ce que t'attends de moi, toi, en fait? Qu'est-ce qui te fera dire, tiens, j'ai bien fait d'accepter ça?
De discuter, surtout. Pour arriver à survivre cette épreuve, quoi. Enfin, j'ai suivi une psy toute l'année dernière, en fait. Elle m'avait prescrit des médicaments, mais en fait, j'ai dit à mes parents que ça allait mieux, alors que pas du tout, en fait.
Moi, je pense que ce qui les ferait le plus arrêter, c'est si on réussit à faire en sorte qu'elles se disent... jusqu'à présent, ça nous donnait un peu une espèce de... je sais pas quoi, de pouvoir, de t'embêter, et qu'elles se disent tout à coup, c'est risqué, non pas parce qu'on va prendre une sanction du haut, mais c'est risqué parce qu'on va être ridiculisé, en fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ou pas?
Ouais.
Je trouve que ce serait encore plus fort si toi, t'arrives à, encore une fois, faire changer l'inconfort pour qu'il aille de leur côté et plus du tien, tu vois ce que je veux dire? Tant que tu n'as pas réussi à montrer, au fond, que ça te faisait marrer et que t'es beaucoup, tout à fait au-dessus de ça, mais en mode... joyeux, pas en mode j'ignore, je fais comme si je voyais pas et tout ça, mais en mode plutôt joyeux, un peu combattante, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Et ben, en effet, il y a un risque que ça se reproduise. Et donc moi, je pense que si tu veux que les choses changent, il faut que ton appui, ce soit toi-même, chérie. Mais pas les adultes, parce que tu vois bien que les adultes, dès qu'ils interviennent, c'est comme s'ils disaient, regardez comme c'est un joli petit chaton mouillé qui sait rien faire du tout. Donc c'est pour ça que si toi, t'es frontale en la regardant, en souriant, qu'elle se dise, j'ai plus d'impact sur elle, en fait. Tu regardes pas en souriant quelqu'un qui te fait souffrir, t'es d'accord avec moi? Donc, on essaye ça?
Ouais.
Mais ce que je te propose, c'est que tu réfléchis, et si tu veux qu'on fasse au moins une deuxième séance pour voir comment ça s'est passé, les exercices, eh ben on peut se voir dans un mois, par exemple.
Okay.
Ça te va?
Ça me va.
Ok. Alors, je vous précède.
Emmanuel Piquet, vous proposez donc des thérapies brèves de quelques séances.
Voilà, en quelques séances, entre 4 et 5 séances, en moyenne, en effet, dans nos centres, le problème peut être résolu. Quand on va proposer une forme de riposte à un enfant qui se fait harceler de façon systématique, de façon symbolique par les mots, on va lui proposer une riposte verbale, par exemple, et donc on va l'entraîner, nous, en séance, en faisant le méchant, nous, pour que lui sache riposter, parce que c'est des enfants qui sont tellement en vulnérabilité, souvent tellement recroquevillés, que c'est difficile pour eux de riposter. C'est pas quelque chose qui est naturel, à l'instant T, en tout cas. Et donc, on va les entraîner jusqu'à ce que ça sorte de façon extrêmement naturel en fait. Et puis ensuite, on va demander aux parents de les entraîner aussi pour que lorsqu'il arrive dans la cour de l'école ou du collège, ben, ça sorte de façon spontanée. Sachant que c'est souvent fondé sur l'humour, hein, c'est ça qui est vraiment très important. Donc c'est vraiment de la résistance. Il ne s'agit pas de transformer du tout ces enfants en enfants agressifs, il s'agit de faire une proposition de résistance en fait. Un enfant qui évite le regard, il montre qu'il a peur d'une certaine manière. Parce que de mon point de vue, quand on fait des choses à la place de l'enfant harcelé, on le rend encore plus vulnérable aux yeux de ceux qui le harcèlent précisément. Bien sûr qu'il faut que l'adulte intervienne, mais pas à la place de l'enfant.
Quelles peuvent être les conséquences à moyen et long terme pour des adolescents ou des enfants qui ont été harcelés ?
Donc il y a une étude qui a été menée sur deux cohortes en fait distinctes, et c'est très intéressant parce que c'est des cohortes qu'on a suivies au long cours. Donc on les a suivies jusqu'à leurs 50 ans. Une cohorte donc qui avait été harcelée, une cohorte qui ne l'avait pas été. Et en fait, ce que ça met en lumière, c'est que ce sont des adultes qui sont plus souvent victimes de maladies chroniques que les autres. Ils ont plus de difficultés à trouver un emploi. Quand ils trouvent un emploi, cet emploi est moins rémunéré que la moyenne. Et ils ont plus de difficultés à entrer en relation amoureuse. Ce qui est, de mon point de vue, extrêmement logique, hein, c'est qu'ils ont perdu confiance, en fait, à la fois confiance dans les autres et à la fois en leur capacité propre à entrer en relation de façon satisfaisante. Donc c'est pas anodin. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que la dernière sonnerie du lycée retentit que tout à coup le harcèlement disparaît et qu'il a plus d'impact dans notre vie, quoi.
Depuis la rentrée passée, le programme de l'éducation nationale, appelé programme phare, a été généralisé dans les écoles et les collèges. Ce plan de lutte contre le harcèlement scolaire se veut complet. Formation, prévention et traitement des situations qui peuvent dégénérer. Pour l'équipe éducative, cela implique qu'au moins 5 personnes, pas forcément des enseignants d'ailleurs, il y a aussi des médecins scolaires ou des CPE, mais en tout cas qu'au moins 5 personnes soient formées pour détecter ces situations. Les élèves aussi ont tout logiquement leur place dans ce dispositif. Nous retrouvons Yann Gallic et Virginie Lorda dans les Landes. Ils arrivent dans un collège qui a fait partie des premiers à tester ce dispositif.
Appel en cours.
Interception. Sur France Inter.
La porte est ouverte.
Ouverte.
S'il vous plaît, refermez la porte. Derrière vous.
Au collège Jean Rostand à Cabreton, des élèves de 5e, 4e et 3e ont été formés pour devenir des ambassadeurs contre le harcèlement. Ils sont 16 à s'être portés volontaires pour aider les éventuelles victimes et sensibiliser leurs camarades.
Bonjour, je m'appelle Sofiane, je suis en 3e et je suis au collège Jean Rostand et j'ai 15 ans. Mon rôle d'ambassadeur, c'est d'aider nos camarades qui sont embêtés ou qui sont tout seuls. Voilà. Parce que ce qui me tue, c'est voir une personne toute seule dans la cour de récréation. Donc il faut aller vers la personne et voir s'il a harcelé ou qu'est-ce qui se passe, quoi.
Et ça se passe comment alors ? C'est-à-dire que les autres viennent te voir, dire « Sofiane, on a un problème
?» Oui, souvent. On vient me voir, on me dit « Mais tiens, il y a cette personne qui s'est embêtée par ce groupe depuis tel moment. » Et donc du coup, je vais voir la personne. Je lui dis « Bonjour, comment tu vas ? Ça va ?» Au début, il ne dit pas trop. Et puis après, il commence un petit peu à se libérer vu qu'on est entre camarades. Donc c'est pas, il n'y a pas d'adulte. Ce qui permet qu'il se libère plus facilement. Et puis après, je lui dis qu'il y a des personnes super gentilles dans le collège qui peuvent l'aider. Mais quand c'est vraiment du harcèlement, je fais appel à l'assistante sociale, Madame Sagabrito.
Parce que nous, notre but, en fait, c'est pas d'être des super-héros par rapport au harcèlement, c'est juste vraiment d'être des porte-parole entre les adultes référents et les harceleurs. Enfin, les harcelés, pardon.
Et les harceleurs aussi, potentiellement,
oui.
Parce qu'il faut
ben
bien...
Oui, si. Il faut que tout le monde communique, sinon on ne s'en sortira pas.
Alors Julia, tu es en 3e aussi.
Oui, oui aussi.
Julia, tu étais volontaire. Est-ce que tu as été formée aussi à cette question du harcèlement scolaire?
L'année dernière, on a eu une journée de formation dans lequel on a vu tous les types de harcèlement et tous les scénarios qui peuvent exister et nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour agir dans la cause du harcèlement. Je pense que le harcèlement, c'est quelque chose qui touche tous les collèges, tous les lycées et toutes les écoles et qu'il faut réagir parce que ça peut avoir des conséquences très, enfin, super graves sur, bah, sur la vie carrément de, d'un élève. Ça peut aller très loin.
Merci à vous.
Bonjour, je m'appelle Louise, je suis en 4e, j'ai 13 ans et c'est ma première année en tant qu'ambassadrice contre le harcèlement. Moi j'ai été harcelée personnellement pendant mes années de primaire et en 5e aussi. On m'harcelait parce que j'étais nouvelle au collège et en primaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début on commençait à me pousser dans les couloirs, donc basique.
Ils étaient plusieurs à te harceler ?
Oui, il y avait... Bah, comme d'habitude, il y a un personnage principal et il y a les autres personnes qui le soutiennent. Donc il y a l'harceleur et il y a les spectateurs. Ce qui s'est passé, c'est que le harceleur, il n'arrêtait pas justement et les spectateurs, ils continuaient aussi. C'était vraiment insoutenable et tout ça.
Ils se moquaient de toi ?
Oui, ils se moquaient tout le temps. Et je les croisais tout le temps vu que c'était un petit collège. En primaire, c'était la même, c'était tout petit là-bas. Du coup, on se croisait tout le temps. Soit ils me frappaient, soit ils me poussaient, soit ils m'insultaient en fait. Ils n'avaient aucun argument à me faire ça, mais ils le faisaient quand même.
C'était quel genre d'insulte ?
T'es conne, dégage d'ici, t'es pas la bienvenue. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie voir une psychologue aussi, sauf que bah, j'ai pas réussi à me confier. Elle m'a aidée, elle m'a canalisée, mais j'ai pas pu tout lui dire.
Et Louise, à l'époque, t'as pas osé en parler à tes parents ?
En fait... Je leur en ai parlé quand ils m'ont posé pour la 100e fois la question. Est-ce que Louise, ça va et tout ça ? Je leur ai fait non, je me fais harceler. Et ils m'ont dit, bon bah, si t'embêtes, t'en parles à ton père et ton père, il ira les voir. Et ce qui s'est passé, c'est que en 5e, je me suis fait harceler avec quelqu'un, je me suis battue. Mon père, il est parti voir cette personne-là et cette personne-là ne m'a plus embêtée. Je ne sais pas comment il fait, mais il m'aide bien. Et c'est vraiment un poids qu'on m'a enlevé des épaules de pouvoir souffler, en fait, et de rester libre, en fait, sans être harcelée.
Comment tu te sentais à cette époque-là ?
À cette époque-là, je me sentais coupable, en fait, d'être harcelée. Vu que tout le monde me faisait la réflexion que c'était de ma faute, ce que je ressentais, j'ai failli me suicider 3 fois. C'est comme ça, mais j'ai réussi à me relever grâce à tout le monde qui m'a aidée, mes amis, mes parents, les psychologues aussi, ils sont là pour ça. Vraiment, tout s'est bien passé après, tout est revenu dans l'ordre.
Aujourd'hui, tu te sens bien ?
Exactement.
Est-ce que je pourrais passer à la télé ?
Ah non, c'est la radio, c'est pas la télé.
Ah ouais, mais je peux dire un petit mot.
Bonne journée, madame.
On n'a pas de caméra, c'est la radio.
Oui, il faut la porte.
En fait, on vient faire un reportage sur le harcèlement scolaire parce que vous avez
besoin de passer. Arrêtez d'harceler, c'est pas bien. Stop au harcèlement. Stop, c'est méchant.
Installer le matériel vidéo. Allez, bonjour.
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 Allez, installez-vous.
Vous êtes l'assistante sociale du collège ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous allez faire avec cette classe de 6e là ?
Alors, nous allons avec ma collègue conseillère principale d'éducation, nous allons faire une séance prévention lutte contre le harcèlement scolaire. C'est une séance que nous faisons sur tout le niveau 6e et chaque classe de 6e bénéficie de cette formation-information. Et voilà, on va travailler pendant une heure avec l'ensemble de la classe. Alors, La séance, elle va se dérouler comme ça, c'est-à-dire qu'on va vous projeter une petite vidéo de 2 minutes et ensuite on va échanger sur qu'est-ce que vous savez du harcèlement, comment ça se construit le harcèlement, parce que c'est quelque chose de particulier le harcèlement, tout n'est pas harcèlement. Nous allons échanger, alors vous êtes tout à fait libre de parler, tout ça pour vous dire quand même le message de la séquence et de vous dire que le harcèlement, c'est pas une fatalité et qu'on peut en sortir. Alors vous regardez bien et vous écoutez bien, parce qu'après on va quand même reprendre ce qui est dit dans la vidéo.
Quand tu es harcelé, dans le bus, c'est difficile. Dans la cour, c'est difficile. Quand tu es dans les vestiaires, c'est difficile. La solitude, c'est le pire moment quand tu te fais harceler.
J'ai peur d'aller au vestiaire. J'ai peur d'aller au casier. J'arrive même plus à travailler.
Il y en a un qui commence et tous les autres suivent. Ça serait pas plus intelligent d'essayer de l'aider ?
Quoi, le harceleur ? Mais à quoi ça te sert ? À quoi ça te sert de me voir pleurer ? À quoi ça te sert de juger ma couleur de cheveux ?
Ça vous touche, hein ? Ça vous révolte ?
Moi, je dis non au harcèlement. Parce que c'est pas normal de se faire taper, de casser des lunettes de quelqu'un. Non au harcèlement.
Toi, le harceleur, pourquoi tu fais ça ?
Parce que t'as pas de personnalité ? T'as peur qu'ils aient de meilleures notes que toi ? T'as peur qu'ils aient plus d'amis que toi ? T'as déjà été victime ? C'est pour ça que t'harcèles les autres ?
Tu crois que t'es fort avec ton ordinateur derrière ton téléphone ? Tu crois que t'es fort en menaçant les autres, toi ? Je crois pas, moi. Contre le harcèlement, il y a des solutions.
Premièrement, il faut en parler à l'adulte. Deuxièmement, ne pas laisser faire.
Troisièmement, apprendre aux élèves à ne pas harceler.
Quatrièmement, aider la victime.
Cinquièmement, j'appelle le 30-20, numéro non harcèlement.
Donc, on va partir donc de cette petite vidéo. Si le harcèlement est une violence scolaire, ça c'est évident, toutes les violences scolaires ne sont pas forcément du harcèlement. Donc il faut que vous appreniez à bien repérer qu'est-ce que c'est le harcèlement pour pouvoir après agir et pour évidemment faire en sorte que ça s'arrête. Bon. Alors donc on va parler du harcèlement et on va parler aussi de ce qui a été dit dans la vidéo qui est très important, c'est le cyberharcèlement. Vous savez ce que c'est le cyber... Allez, vas-y.
C'est le harcèlement sur les réseaux sociaux.
Voilà, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez tous un portable, téléphone portable ?
Oui.
Est-ce que vous allez sur des réseaux sociaux de communication ?
Oui.
Est-ce que vos parents contrôlent systématiquement ce que vous faites, ce que vous dites ? Levez la main.
Comment ça, c'est quoi contrôler ? Enfin, je sais pas, moi.
Est-ce qu'ils regardent ? Oui, est-ce qu'ils regardent ce que tu fais ? Donc, voyez déjà, par rapport, il y en a bien moins.
Moi, il a déjà regardé mes messages.
Et bien, moi, vous savez, quand je reçois des parents, je leur dis, mais regardez ce que font vos enfants sur les réseaux sociaux. Parce que le réseau social, ça peut aussi être dangereux dans ce qu'on y fait, dans ce qu'on se dit et dans ce qu'on y montre. Sachez que le cyberharcèlement est une réalité qui peut avoir des conséquences dramatiques. Ça peut aller jusqu'où ?
À se suicider.
Jusqu'au suicide ?
Hein ?
Oui. Quel parent peut imaginer que son enfant se fait harceler au collège et qu'il va finir par tenter de se suicider parce qu'il est malheureux de ça ? C'est inacceptable. C'est pas possible d'entendre une chose pareille.
Je suis Eliane Sagardeuto, donc je suis assistante sociale scolaire et j'interviens sur 3 établissements du secteur, 2 Cabreton et Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Donc vous venez de faire 1 heure de sensibilisation avec des élèves de 6e.
Oui, c'est pas une démarche facile de venir d'abord dire les choses et tout de suite les élèves se disent « mais si je parle, qu'est-ce qui va m'arriver ?» On a déjà une obligation, c'est de protéger la victime et de mettre en place tout ce qui est possible de mettre en place pour la protéger. Et on va s'intéresser aussi au harceleur. Parce que moi, j'estime qu'un enfant harceleur est forcément un enfant qui ne va pas bien, qui est en souffrance. La sanction, elle peut être parfois nécessaire, puisqu'elle est éducative aussi. Voilà, ce n'est pas forcément le premier réflexe. On va essayer de comprendre ce qui se passe, d'échanger avec le harceleur, avec la victime, et de faire en sorte que les choses s'améliorent dans la vie de tous les jours. Parce que quand ils sont dans la même classe, c'est compliqué.
Vous avez quand même le sentiment, je ne sais pas depuis combien de temps vous exercez ce métier d'assistante sociale en milieu scolaire.
Depuis 30 ans.
Alors justement, en 30 ans, est-ce que vous avez vu clairement une évolution, une véritable prise de conscience au sein de l'Éducation nationale sur cette question du harcèlement scolaire.
Oui, mais je dis, elle va aussi, cette prise de conscience de pair avec, avec l'évolution de notre société aussi. Hein. La pandémie, là, nous a révélé beaucoup de situations de détresse, beaucoup de situations de souffrance. Et les élèves disent, à ce moment-là, on a été hyper déconnectés du lien social de l'autre. Et en même temps, on a été hyper connectés sur les réseaux sociaux, ce qui a généré aussi de la violence. Depuis 30 ans, la violence scolaire a toujours existé. Des situations de harcèlement qui n'étaient pas du tout identifiées comme on le fait maintenant, existaient. On gérait ça, moi je me souviens quand j'ai démarré ma carrière, mais je me disais, on ne banalisait pas la violence, mais elle était aussi un peu parfois intégrée. Donc effectivement, moi j'ai avancé aussi, et l'Éducation nationale a le mérite aussi maintenant de se dire, bon il faut le dire, parce que je crois qu'on a connu des époques où ça n'existait pas.
En France, 20% des jeunes de 8 à 18 ans déclarent avoir été confrontés à une situation de cyberharcèlement. Il existe des plateformes d'écoute pour les victimes et pour les témoins. Deux numéros verts et gratuits, le 30-20 et le 30-18, gérés par l'association e-enfance, dont les locaux sont à Paris, quartier des Halles, où s'est rendu Yann Gallic. L'an passé, la Ligue nationale dédiée au cyberharcèlement a reçu 17 000 appels.
Bienvenue à Yann, Samuel Comblé, le directeur des opérations.
Samuel Comblé, vous êtes vous-même psychologue de formation.
Tout à fait.
Vous êtes le directeur des opérations de l'association e-enfance. Alors on est ici dans vos bureaux, un open space avec 4-5 personnes derrière leurs écrans d'ordinateur qui répondent toute la journée aux appels. Qui vous appelle généralement ?
Alors on a à peu près 60% d'adultes, qui sont majoritairement des parents, 40% d'adolescents, quelques enfants, mais c'est très rare. On a des professionnels aussi. Donc on est à la fois là pour traiter des situations de victimes, mais on est aussi là pour accompagner une meilleure compréhension des usages numériques des jeunes auprès des parents, des professionnels et de tous ceux qui nous appellent.
On va peut-être passer dans le bureau d'à côté.
30-18, bonjour. Ah oui, d'accord. En vis-à-vis des photos qu'il avait pu... voir, d'accord.
Ça s'est passé, donc c'était uniquement sur, ouais. Sur Telegram,
c'est ça ? La prochaine fois que vous voyez, en tout cas, que vous êtes vous témoin de choses de ce type-là sur Twitter, à ce moment-là, je vous invite à enregistrer votre écran.
Parce que dans ce cas-là, en fait, ce qui concerne Telegram, alors c'est vrai qu'on n'a pas de partenariat avec eux, malheureusement, mais on peut vous transmettre leur contact. En fait, c'est une adresse mail, il faut envoyer donc un mail détaillé de la situation.
D'accord. Parce que comment vous en avez parlé avec lui du fait qu'il ait été exposé à ces photos à caractère sexuel ?
Le harcèlement entre élèves, quand il se prolonge sur les réseaux sociaux, quelle forme il prend finalement ?
Alors ça peut être des moqueries, des insultes, de la diffamation, ça peut être de la diffusion de photos, parfois des vraies photos, parfois des photos truquées, souvent où la sexualité ou le corps dénudé est mis en avant. Et donc ce que l'on voit, c'est parfois des adolescents qui vont trouver une photo dénudée de quelqu'un, ils vont aller au travers d'un logiciel facile d'accès, gratuit, coller la tête d'une élève de la classe par exemple et faire croire que ce corps appartient, bon, voilà, des choses un peu basiques, mais qui ont des répercussions extrêmement graves, parce que c'est bien difficile parfois de montrer qu'on n'est pas cette personne. On a aussi des situations d'usurpation d'identité, de piratage de compte, où certains adolescents vont prendre le contrôle d'un réseau social, se faire passer pour le propriétaire du compte, et puis diffuser de la désinformation, bien évidemment, le plus souvent. Voilà, on a principalement ce genre de situations qui nous sont rapportées, ouais.
Est-ce que les filles sont plus touchées que les garçons ?
Alors oui, les filles sont plus victimes de cyberharcèlement que les garçons. Je dirais que le milieu du collège est l'âge un peu sensible, plus à risque. Souvent parce que c'est l'âge où on commence vraiment à être autonome sur son réseau social. Souvent, on remarque que ce sont des filles qui ont accès à plusieurs réseaux sociaux. Et donc, plus elles sont exposées, plus elles sont au risque de subir les conséquences de cette exposition et de subir les moqueries, les messages agressifs de ceux qui les regardent. Les statistiques nous montrent qu'effectivement, les victimes sont plus souvent des filles. Oui.
Et dans ces cas-là, la fermeture d'un compte, quelle que soit la plateforme d'ailleurs, ne suffit pas.
Je dirais qu'il y a deux niveaux d'action à avoir. Bien évidemment, retirer les contenus, faire en sorte que le réseau social soit assaini et qu'il n'y ait plus de situation de harcèlement entre internautes. Mais il va falloir aussi assainir la situation entre élèves. Et ça, c'est tout le travail de l'équipe éducative. C'est ce qui explique aussi qu'on reçoit beaucoup d'appels d'enseignants, de proviseurs, de principales de collèges pour pouvoir être accompagnés aussi. Il y a certaines situations qui peuvent être complexes. Et le travail du 30-18, c'est aussi d'être expert du numérique pour soutenir ces équipes éducatives. On va pouvoir signaler des contenus auprès des réseaux sociaux. Le 30-18 est tiers de confiance auprès de la majorité des réseaux sociaux que vous pouvez connaître, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Ce qui permet que quand une victime nous appelle pour nous dire voilà, des photos de moi sont diffusées ou des textes agressifs sont diffusés sur mon réseau social, bien nous allons pouvoir signaler ces contenus et les faire retirer en quelques minutes ou en quelques heures, gros maximum. Et chaque année, on varie entre 2500 à 3000 signalements envoyés avec des fermetures de comptes, avec des suppressions de contenu. Tout ça pour éviter la viralité, puisque dans le cyberharcèlement, on le sait, au-delà de la violence de certains propos, le risque le plus important, ça va être la diffusion sans contrôle de ces contenus. Donc plus on peut les retirer tôt, mieux ce sera pour la victime.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Merci bien.
Ah, je t'ai pas dit, il y a une nouvelle dans notre classe.
Ah, mais c'est qui elle?
Elle est grave bonne, Gillian.
Ah, mais t'es sérieux elle? Mais c'était une grosse fille l'année dernière, hein, elle était dans mon lycée, elle se tapait tous les mecs.
Le gouvernement veut créer un délit spécifique de harcèlement scolaire. Une proposition de loi est actuellement examinée par les parlementaires. Le texte prévoit de lourdes peines pour les adultes, mais aussi les élèves harceleurs. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, et même jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende si la victime s'est suicidée ou si elle a tenté de le faire. Alors, faut-il renforcer l'arsenal judiciaire et alourdir les sanctions pour mieux lutter contre le harcèlement scolaire? Nous allons en parler avec Delphine Meillet, avocate au barreau de Paris. Elle est spécialisée dans le droit pénal et les affaires de harcèlement.
Elle s'appelait Evaëlle, elle avait 11 ans lorsqu'elle s'est suicidée. Cela s'est passé l'année dernière à Herblay, dans le Val d'Oise.
À 11 ans, la jeune fille est terrorisée à l'idée d'aller en cours.
La professeure de français de cette collégienne vient d'être mise en examen pour harcèlement sur mineur.
Elle se confie à ses parents et accuse sa professeure de français de harcèlement, puis certains élèves. Selon ses parents, son enseignante lui a même demandé un jour en classe d'expliquer à ses camarades pourquoi elle se sent harcelée.
Delphine Meillet, vous êtes l'avocate des parents d'Evaëlle Dupuis. L'enseignante et 3 collégiens ont été mis en examen dans cette affaire. C'est rare.
Absolument, c'est très rare, voire unique. On a tous l'idée simple et l'image simple que le harcèlement moral, scolaire, intervient entre élèves. Pourtant, dans la réalité, il y a souvent des professeurs qui sont à l'origine du harcèlement scolaire, voire même eux-mêmes auteurs de harcèlement. Et là, on est dans une situation comme celle-ci. On est dans un cas où la professeure a été mise en examen et 3 élèves également sur le chef de harcèlement moral. Ils ont donc été mis en examen à l'âge de 13 ans pour des faits commis à l'âge de 11 ans. On a estimé qu'ils étaient responsables de leurs actes à l'âge de 11 ans. Ce qui est aussi rarissime. On est sur des enfants en 6e, avec un gros cartable, tout fin, tout fluet. On n'est pas face à des caïds, mais il se trouve qu'ils se comportaient tellement mal à l'égard de cette petite fille qu'il y avait suffisamment de matière pour les mettre en examen.
Est-ce que c'est compliqué de porter plainte contre l'éducation nationale et d'obtenir réparation?
Oui, alors disons qu'au début, j'aurais pu appeler l'éducation nationale la grande muette, puisqu'au début, c'était silence radio. C'est simple, au moment du décès d'Evaëlle, ils n'ont pas réagi. Pendant 1 an, la professeure est bien entendu maintenue dans le cadre de sa fonction dans ce même établissement. Alors évidemment, elle bénéficie de la présomption d'innocence et ça, on ne va jamais lui ôter. Néanmoins, il n'y a même pas eu de réaction de sa hiérarchie, du directeur d'établissement qui aurait pu recevoir les parents, ça n'a pas été fait. Ce qui fait que techniquement, c'est pas très compliqué d'engager la responsabilité de l'État, parce que c'est ça dont il s'agit quand vous dites porter plainte contre l'éducation nationale. Vous engagez la responsabilité de l'État pour faute. Et c'est ce qu'on a fait. Nous sommes parvenus finalement à un accord qui nous a satisfaits, puisque ce qu'on souhaitait, c'est qu'ils déclarent qu'ils étaient responsables ou partiellement responsables, ce qu'ils ont fait. La seule manière de réparer le préjudice, c'est de le réparer de manière financière. Donc il y a eu un protocole transactionnel avec un financement à la clé. Dans les dossiers qui atterrissent à mon bureau, il se trouve que ce sont les dossiers qui vont mal. Et ce que je vois en fil rouge, c'est l'inertie. C'est l'incapacité à réagir de l'établissement, des directeurs d'établissement, des CPE. Ils ne savent pas comment faire la plupart du temps. Alors que quand il y a des situations, et j'en ai vu, où on sent une autorité prendre le problème à bras-le-corps et s'intéresser au sujet, ça peut se résoudre.
Faire échec au harcèlement scolaire, c'était un reportage de Yann Gallic avec Virginie Lorda et Eric Audra à la prise de son. Jérôme Chélius a réalisé cette émission avec l'aide de Martine Messonnier, mixage Philippe Thibault. Ce reportage est d'ores et déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr.